Aux alentours de l'an 2000, un homme vieillissant raconte à une jeune femme les tribulations de la petite bande maoïste dont il faisait partie, avec son père à elle, à la fin des années 60 et au début des années 70. Le père, qui portait dans ses temps anciens et picaresques le curieux sobriquet de 13, est mort jeune, sa fille l'a à peine connu. La scène est l'habitacle d'une voiture, pas n'importe laquelle, une déesse baptisée Remember, qui tourne sur le boulevard périphérique parisien le temps que se dévide le récit. C'est la nuit.
Pages arrachées à Olivier Rollin. Deuxième épisode. Tigre en papier. L'Orient est rouge.
Porte Molitor, porte d'Auteuil, A3 à 12 fluide, A13 à 14 fluide, tout baigne. La grande galaxie spirale du Parc des Princes, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Rouen. Là-bas à gauche, il y a Rhin et Danube, le rond-point, et puis plus loin, le pont. Et l'autoroute qu'ils appellent maintenant A13 en l'honneur de 13, si ça se trouve, dis-tu à sa fille. En ce temps-là, on l'appelait l'autoroute de l'Ouest. Je ne sais si je parviendrai à te parler de ton père qui fut et qui demeure mon ami. Mais je voudrais au moins que tu comprennes que nous étions peut-être les derniers. Oui, nous, tout ridicules qu'on était, mi Don Quichotte, mi Sancho, à nous intéresser à l'éternité. Sur l'autoroute de l'Ouest, vous aviez projeté 13 et toi une embuscade contre les CRS. C'était les sombres jours de juin 68. La réaction l'emportait, les drapeaux rouges inexorablement disparaissaient des toits, les usines les unes après les autres reprenaient le travail. Vous aviez l'âge où on a trop d'imagination, et surtout pas assez de culture pour lui donner une forme plausible. Vous vous voyez volontiers en résistant, ou aussi bien en Marie-Louise, ces jeunes conscrits de 1814 qui pensaient sans doute défendre les ruines de la Révolution contre l'armée lugubre des rois. Vous vous étiez battu avec la police autour de l'usine Renault, à Flins. La campagne. Le soleil éclatant sur les casques ennemis au fond des champs sur lesquels les nuages jetaient des ombres bleues. Les volutes de fumée que le vent déchirait aux branches des arbres. Le contraste entre les détonations, le bourdonnement des hélicos dans le ciel et la reptation minuscule le long d'une tige de seigle hirsute d'un insecte aux élytres d'émeraude donnait à ces escarmouches l'apparence d'une vraie guerre. Ce qui t'exaltait aussi, penses-tu à présent, c'était la certitude inavouée de combattre pour une cause déjà perdue. Sur les collines alentour, des fermes auraient pu être la Haie Sainte ou le Mont-Saint-Jean. On voyait encore dans les champs alors les cocardes sanglantes des coquelicots comme dans un tableau de Monet ou une chanson de Mouloudji. Un jeune lycéen fut tué dans cette affaire. Tu avais passé la nuit d'avant sa mort à discuter avec lui et d'autres à l'école normale supérieure de Saint-Cloud autour d'un feu de bivouac. Ça avait un côté scout, peut-être on peut dire ça, mais vous croyez voir bouger dans l'obscurité les grandes draperies de l'histoire. Harnaché, casqué, appuyé sur vos manches de pioche, sous la noirceur des arbres que faisait vaciller la lumière des feux, vous vous imaginiez que vous montiez la garde dans les tranchées de la cité universitaire à Madrid en 1938. C'était comme ça. Le monde que vous aviez sous les yeux, dans lequel vous viviez, était comme approfondi, transfiguré par une puissance qui reliait chaque événement, chaque individu a toute une chaîne ancienne d'événements et d'individus plus grands, plus tragiques. On peut trouver ça ridicule, c'était quand même une manière de poésie. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait plus que du présent, de l'instantané même. Le présent est devenu un colossal fourmillement, une innervation prodigieuse, un Big Bang permanent. Mais à cette époque-là, le présent était beaucoup plus modeste. Il était la modestie même, en fait. C'était le passé qui avait une présence formidable, et l'avenir aussi. Le passé, l'histoire, était le grand projecteur des images de l'avenir. Ce jeune lycéen, Gilles, avait été tué. Enfin, il s'était noyé dans la Seine en essayant d'échapper à la police. Et c'était le premier homme que tu voyais faucher ainsi. Le son de sa voix encore dans tes oreilles, tous ses gestes familiers et presque enfantins encore déployés autour de lui. C'était la première fois que vous mouriez. Tunnel, haie de néon pâle, arbre noir sur la gauche, on arrive vers le bois. À 700 mètres dans le cap, il y a la porte Molitor. Puis la porte d'Auteuil où tu as été coincé une fois, dans une fourgonnette remplie d'une armurerie hétéroclite au beau milieu d'une manif de lycéens. Tout cet attirail, la fourgonnette Fiat volée évidemment, et les pétoirs, ça devait servir à arrêter, c'était le mot que vous utilisiez, le général en retraite Chalet, PDG d'Atoframe, société qui avait licencié des grévistes et qui, en outre, produisait certains composants électroniques de base entrant dans la fabrication des bombes que l'US Air Force larguait sur le Vietnam. Ce matin-là, vous étiez fin prêt, équipé, grimé, mais lui n'était pas au rendez-vous. Il devait être en voyage d'affaires. Vous aviez attendu une bonne heure devant chez lui, mais au bout de tout ce temps, la tension avait commencé à monter, c'était fatal. Et puis 13 avait eu envie de pisser, c'était malin. Ça vous avait collé un fou rire qui secouait dangereusement les tôles. Le copain déguisé en chauffeur-livreur au volant avait beau rester impassible, vous alliez finir par vous faire repérer. Et plus vous essayiez d'étouffer votre rigolade, accroupi à l'arrière, invisible, enfouraillé, congestionné, plus 13 avait envie de pisser. Et le rire contre-révolutionnaire redoublait. À la fin, c'était intenable. Vous aviez dû lever le siège. Le copain qui conduisait, c'était Fichaoui Di Julo, un petit une d'un sang-froid à toute épreuve, et marrant en plus. Suivant avec discipline l'itinéraire prévu pour le repli, il s'était vu soudain environné et bloqué par une foule de lycéens jaillis de Jean-Baptiste Say pour manifester contre je ne sais laquelle de ces réformes de l'éducation dont la mode commençait à se répandre. À moins que ça n'a été pour protester contre les violences policières, assez à la mode aussi. Naturellement, vous étiez d'accord avec eux, par principe. Il y avait même sûrement dans la foule braillarde des membres de la cause. N'empêche, la situation devenait emmerdante. Vous, bloqués, avec vos fausses moustaches, vos perruques et vos tromblons, au milieu de ces jeunes excités à qui la police, telle qu'on la connaissait, n'allait pas tarder à chercher des crosses. Fichaoui Di Julo, une fois de plus, avait été admirable, racontes-tu à la fille de 13. Cependant que surgit devant le vaisseau Remember une espèce de gigantesque chapeau de la reine d'Angleterre, mauve trapézoïdal, scintillant de paillettes, balayé de spots ondulatoires. Oh, le palais des congrès relooké, décoloré, old lady lovely. Il avait fait valoir aux camarades lycéens qu'il était un camarade travailleur et que son patron le virerait s'il ne faisait pas sa tournée à temps. Vous, dans le fond de la camionnette, vous reteniez votre souffle. L'affaire s'était terminée par une fraternisation enthousiaste et les manifestants, levant leurs poings juvéniles, avaient ouvert leur rang devant vous juste avant que n'apparaissent les premiers casques de garde mobile. Le général en retraite Chalet, vous aviez quand même fini un autre jour par le charger dans la fourgonnette. Lorsqu'il s'était garé et qu'il était descendu de sa déesse Palace rue des Marronniers, tu lui avais mis le canon de la mitraillette sur le ventre, une vieille Sten de la guerre à chargeur horizontal, de celle que les alliés, à la fin, parachutaient par milliers. Il fallait le pousser à l'intérieur de la camionnette que conduisait Fichaoui Di Julo. On pensait que Chalet allait opposer une résistance acharnée, alors je l'ai poussé de toutes mes forces avec la Sten vers la porte ouverte de la camionnette. Eh bien, au contraire, il s'est quasiment évanoui, si bien qu'emporté par mon élan, je l'ai bousculé et nous sommes tombés tous les deux par terre, moi sur lui. Et dans l'affaire, le chargeur de la Sten s'est déverrouillé. Et il a giclé dans le caniveau, le ressort, le poussoir, tout ça tintinabulant dans le caniveau. Pas les balles, puisqu'on ne chargeait pas nos armes pour éviter des conneries, des bavures, comme on dit justement dans ce genre de circonstances. Enfin, tu vois le tableau, le général et moi allongés sur le macadam et l'armurerie en vadrouille. Bon, on a ramassé toute cette quincaillerie et le général par le col du paletot, plus mort que vif et en voiture. Fichaoui a fait un démarrage de Grand Prix. 5 heures du mat. Combien de temps qu'on tourne? 2, 3 heures? Combien de révolutions on a faites, la fille de 13 et moi, au Commander Remember? C'est pas. Autour de la grosse boule sombre couturée d'électricité, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, rouge, blanc, vert, bleu, rouge, arc-en-ciel déjanté. Ils sont en train de se lever à droite. Fenêtre qui s'allume, la nuit cligne de l'œil. Debout, les pyjamas. Et dans le ciel, là-bas, ça ne se lève pas? Si, un peu, on dirait. On y pense. Ça se remue. Lueur verdâtre. Bientôt l'heure abominable où les prolétaires courent vers le chagrin dans l'aube venteuse. Heure des yeux pochés, des nausées, des aigreurs d'estomac. Sillage des semis lancés vers Rungis. La barbe qui pousse. Je te barbe pas, non ? Pas fatigué ? Alors on continue. J'en étais où ? On était allé aux puces chercher une très grande malle pour y mettre chalet. On n'avait rien trouvé qui nous convienne vraiment, mais on avait fini par jeter notre dévolu sur un coffre assez vaste, tout de même. Un coffre en bois du genre de celui de Billy Bones dans l'île au trésor. On a réussi à le faire entrer là-dedans, la tête contre une paroi, avec un petit coussin pour le confort, les pieds contre une autre, genoux pliés. La camionnette roulait depuis 2 ou 3 minutes, elle devait déjà avoir été signalée à la police, il était temps de changer de monture. Un relais de poste était prévu au fond d'un garage souterrain non loin de là. Montcharge nous y attendait au volant d'une fourgonnette d'une couleur et d'un modèle différent. « Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas parlé de Montcharge jusqu'à présent, dis-tu à la fille de 13. »« En fait, si, je le sais bien, il avait vécu avec Judith avant. » Et il nous avait surpris en flagrant délit. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Des préparatifs nullement ambigus. Je m'étais vraiment, en cette occasion, comporté comme dans une pièce de boulevard. Si j'avais eu le temps de me jeter dans un placard, je l'aurais fait. J'avais bredouillé n'importe quoi, rouge et essoufflé et débraillé, que la fatigue, qu'on s'était endormi, qu'on rêvait que... Montcharge m'avait dit de ne pas me fatiguer, qu'il n'était pas idiot. Il tenait son surnom du fait qu'établi un moment chez Citroën, il avait, au cours d'une grève sauvage avec un groupe d'OS marocains, réussi à bloquer pendant une journée entière un Montcharge qui alimentait la chaîne des deux chevaux. Et chez Citroën, c'était drôlement calé de faire ça. Après, évidemment, ils avaient tous été virés. C'est au moment où on descendait la rampe du garage que l'irréparable s'est produit. Chalet est sorti de la très passagère léthargie où il était tombé. D'un seul coup, il a retrouvé toute son énergie, il pétait les flammes. Arc-bouté, d'une détente des jambes, il a défoncé le coffre. Le bois, dans un craquement terrible, a éclaté. Merde ! On aurait quand même dû en acheter un en fer, a dit 13 d'un ton sinistre. C'était pas pour faire des économies, c'est parce qu'on n'en a pas trouvé, du con, lui ai-je répliqué vertement. Fichaoui s'est garé à côté de la fourgonnette 4L et il est venu nous rejoindre derrière. Debout, autour de la malle ouverte, des mantibulés, on se demandait quoi faire. Quand Chalet a commencé à essayer de s'en extraire. En grotesque, ça devait évoquer une scène de résurrection, tu vois. Quand même là, il exagérait, il aurait pu patienter un peu. Ta gueule, toi, laisse-nous réfléchir tranquille, lui a dit Fichaoui en lui rabattant le couvercle sur la tête. Se réfléchir tranquille était admirable, du meilleur Fichaoui. Mais on avait beau chercher, il n'y avait pas de solution. On ne pouvait plus boucler la malle, et il suffisait que Chalet pousse encore un peu pour que son pied passe carrément à travers le bois. Il n'y avait plus qu'à le laisser là et à se tirer en vitesse, et c'est ce qu'on a fait. Ensuite, Montcharge nous a largués au métro Porte Dauphine, ou bien c'était Trocadéro, 13, Judith et moi. Dans le wagon, 13 s'est assis en face de nous, et c'est là qu'on a vu sa tronche. Sa fausse moustache était de travers, à demi décollée. « Eh bon, Roda Gobert, lui ai-je soufflé, ta moustache est de travers. » Il l'a enlevée d'un air digne, comme un vieux sparadrap, et la colle a laissé sur sa lèvre supérieure une espèce de bave d'escargot noirâtre. Ce n'était pas loin d'être la chose la plus drôle que j'avais vue de ma vie. On rencontrait encore des bourgeois dans le métro à l'époque. Il y en avait un, de l'autre côté du couloir. Un mec en loden vert avec un petit chapeau pied de poule qui lisait Le Monde. Mais pas les pages entreprises ou tendances financières ou argent, non. Ces pages n'existaient pas encore. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il lisait les pages Agitation et Subversion, qui étaient comme le journal officiel des fouteurs de merde de toute obédience. Mais quand même, il faut reconnaître qu'à la cause, on alimentait le plus gros des rubriques. Les autres faisaient les bouches-trous. Le sourcil de ce type s'arquait au-dessus des pages, l'œil braqué en douce vers nous, interloqué, vaguement effrayé. Nos regards se croisèrent. L'œil, comme un mollusque, se retira précipitamment sous sa coquille de papier. Après, dans la nuit, on a pris le train postal à la gare du Nord pour aller se planquer en Belgique. Pourquoi ce tortillard qui s'arrêtait partout ? Je ne m'en souviens plus à présent, dis-tu à la fille de 13. Peut-être pour arriver au petit matin à la frontière sans être obligé de faire escale à Lille. Et pourquoi Judith ne m'a-t-elle pas accompagné ? C'est plus. Le train devait démarrer vers 11h ou minuit, il me semble. Il y avait dans les wagons des bidasses abruties de bière, de fatigue, de tristesse, têtes rases de bagnards s'entrechoquant dans les chaos, des wagons qui dataient du temps des locaux à vapeur. On pouvait baisser les glaces et c'était marqué dessus « Attention aux escarbilles ». Escarbilles. Je suis sûr que tu ne sais pas ce que c'est, dis-tu à la fille de 13. C'était de petits copeaux de charbon brûlant qui volaient dans le sillage de la locomotive. Si on se penchait au dehors, en dépit de l'inscription fameuse « E pericolosos por Jersey », qui a été, pour beaucoup d'enfants de ma génération, leur premier contact avec le mystère d'une langue étrangère, si on passait la tête à la fenêtre, donc, il fallait faire gaffe à ne pas s'en prendre une dans l'œil. Le convoi s'arrêtait en ferraillant à toutes les gares, restait interminablement à quai, le temps de charger les sacs de courrier, ou de les décharger, ou les deux, je ne sais pas. Il y avait toute une poésie des gares nocturnes qu'on a presque perdue aujourd'hui. Lanternes balancées à bout de bras, hommes en mitouflé marchant le long des voies, appels lointains de haut-parleurs, ahannement des locaux de manœuvre, chasse d'air comprimé, tintement clair des marteaux contre l'acier des roues, comme dans Anna Karénine. Enfin, on repartait, puis on s'arrêtait un peu plus loin. On traversait le pays des betteraves, on arrivait dans celui du charbon. Busigny, Cambrai, Douai, Pont de la Deule, Ostricourt, Libercourt, Falampin, Seclin, Vatigny, Ronchin. Debout dans le couloir, fenêtre baissée, on fumait, 13 et moi, silencieux, regardant le lent défilé des gares, des usines, des corons, terrils, chevalements, canaux, les vitrages pâles d'une filature, une route dont le pavé humide divisait la lumière à la façon d'écailles de poisson, et de nouveau des cheminées de briques empanachées. Comme celle du grand incinérateur là, devant nous, dis-tu à la fille de 13. Des corons, terrils, chevalements, un canal sous un pont de fer que le train traversait en grondant. Dans la nuit, par là, de part et d'autre de la voie, Lucien rêvait de faire dérailler un TEE. Winter, peut-être, pleurait silencieusement. André était déchiré par une quinte de toux, il buvait un verre de lait pour essayer de calmer la brûlure de la silice. Gustave dormait en ronflant, sonné par la bière. Victoire et Laurent tiraient à la ronéo-vietnamienne, un par un, des tracts annonçant aux masses le grand succès qu'avait été l'arrestation du général Chalet, PDG d'Atoframe, laquais des impérialistes américains et exploiteur du peuple. À la cadence que permettait le rustique appareil, ils imprimeraient la dernière feuille juste avant de partir pour la DIF, titubant de sommeil, les mains noires d'encre. Ils termineraient la journée à la gendarmerie, sûrement. 13 avait un de ces briquets boîte à musique chinois qui jouait l'Orient rouge quand on en ouvrait le capot. La 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 la, l'Orient est rouge, le soleil se lève. La 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 la, en Chine paraît Mao Tse-tung. À chaque clope qu'il allumait devant le paysage nocturne, retentissaient les premières mesures du ridicule quantique. « Tu crois que c'est bien nécessaire ?» lui ai-je demandé d'un air sombre. Alors qu'il était, les flashs des radios revenaient tous sur l'enlèvement manqué d'un grand patron lié à ce qu'on appelait alors le complexe militaro-industriel. La nouvelle devait barrer les unes des journaux du matin. Toutes les polices de France devaient être à nos trousses. C'était bien le moment de se faire remarquer. 13 se marrait silencieusement, tirant sur sa clope. Il fredonnait les paroles en chinois approximatif. Tang fang gang hong, tang yang gang chen, zongo shu le yi ge mao tse tong. Le train est resté en gare de Lille pendant un temps qui nous a semblé interminable. Puis il a redémarré dans un grand criaillement de ferraille. Direction Croix-Vasquehal, Croix-l'Allumette, Roubaix. C'est là qu'on descendait. Juste avant le terminus, Tourcoing. Quand on est sorti sur la place devant la gare, le ciel était jaune et vert, comme l'intérieur d'une feuille de salade. Des bistrots s'allumaient, des enseignes clignotaient. Jupiler, Stellar, toi. C'était le petit matin aigre-lait, dans lequel, debout au zinc, le sac à l'épaule, la casquette baissée sur l'œil, on boit, sans dire un mot, un jus bouillu, foutu, sale, et plein de bulles et fumant comme une eau de lessive. On a pris un tram sur le boulevard industriel. 13 a encore allumé une clope là-dedans. À l'époque, dis-tu à sa fille, on fumait partout, et spécialement chez les prolos. Ça n'était pas ça qui risquait de surprendre. C'était la petite musique imbécile. L'Orient est rouge. La plupart des passagers, ça leur attirait des pâles sourires sous les lampes blafardes. Mais il aurait suffi qu'il y ait dans le tram un type du PC qui connaisse cette chansonnette et les ennuis commençaient. Les Mao étaient leurs bêtes noires. Ce con le faisait exprès pour tenter le diable, pour me foutre les nerfs à vif aussi. Mais je ne pouvais rien dire. Juste serrer les poings et les mâchoires. Lui, il se marrait silencieusement, plissant les yeux, tirant sur sa clope. On est descendu sous une grosse église de briques sombres, à flèches d'ardoise, autour de quoi volaient des corneilles. Je lui ai passé un savon, après tout, j'étais son chef, merde. Puis on est entré au café, le limitrophe. Le patron passait une serpillière sur le comptoir. Il avait l'air mal éveillé, mais c'était peut-être un air qu'il gardait toute la journée. On a avalé deux cafés fétides et plein de bulles comme une eau de lessive. C'est moi qui ai allumé les tiges avec mon zippo. Puis on a pris, à l'angle de Roger Salingro, la chaussée de Néchin, ou d'Estaing-Puis, je ne sais plus, dis-tu à la fille de 13. Il faisait froid. Nos haleines fumaient. Passé le cimetière, des champs s'étendaient à droite et à gauche, des labours de terre noire poudrés de givre. Au fond des sillons, de l'eau stagnante reflétait le ciel pourpre. Une cohue de mouettes picorait les lombrics. À droite, au bout d'un fossé d'irrigation, les sheds d'une usine sciaient les vestiges de la nuit. Devant nous, dominé par un silo et un clocher, s'étendait le village étrangement nommé Gibraltar. « Je te jure que c'est vrai ce nom, dis-tu à la fille de 13. Regarde sur une carte. C'est dans les faubourgs de Roubaix, du côté de Waterloo, par là. » La frontière y passait. Roger le Belge nous y attendait, rue du Congo, au bar des sports. Alors qu'on distinguait déjà les panneaux jaunes encadrés de rouge où était écrit le nom de la terre promise, province de Hainaut, Provincie Renegoven, un énorme soleil grenadine a jailli d'un banc de brume tassé sur les toits de Gibraltar. L'Orient est rouge, le soleil se lève. On a commencé tous les deux à gueuler ça, nous prenant par l'épaule, lançant la jambe en un grotesque French cancan, puis la lançant de moins en moins haut, trop pliée de rire. En Chine, paraît Mao Zedong, marchant, ou plutôt sautillant, et bientôt fuyant presque à quatre pattes vers Gibraltar, le visage fardé par le soleil levant au beau milieu des champs scintillants de givre. Il cherche notre bonheur, il est notre sauveur. La 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 la.
C'était Pages arrachées à Olivier Rollin. Deuxième épisode. Tigre en papier. L'Orient est rouge. Avec Georges Bigot. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Lee Torquia. Réalisation, Sophie Haute-Picon.
Extrait choisi par Olivier Rollin et Sophie Haute-Picon. Tigre en papier est publié aux éditions du Seuil.